Bonjour à tous chers amis Gamebloggers et bienvenue sur cette deuxième émission d'Original Sound Bloggers, le podcast qui a enfin un nom.
Voilà, donc, alléluia.
Alléluia, un podcast qui sera donc avec le sigle OSB pour aller un peu plus rapide. Donc je suis toujours ce mois-ci en compagnie d'Onink. Comment ça va Onink ce mois-ci?
Yo, bah ça va super, on est très content du succès du premier podcast. On a eu des commentaires super sympas, pas mal de likes, donc c'est parfait. On va essayer de continuer comme ça.
Voilà, justement, on va commencer ce podcast en répondant à ces divers commentaires. On a toujours également Victor à nos côtés, donc alias MrRockPsy95. Comment ça va, Victor?
Ça va aussi, très très bien. Voilà, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, mais je pense exactement la même chose.
Le cœur y est. Alors donc, comme je le disais, nous allons commencer par répondre à vous, chers amis Gamebloggers, qui nous avez laissé des commentaires souvent très sympathiques vis-à-vis de notre première émission sur les musiques d'hiver, musique hivernale, hein, pas les musiques d'hiver, évidemment. Donc, notamment, les deux principales réponses qu'on peut vous apporter, c'est vis-à-vis de la durée. Certains ont trouvé le podcast trop long. Donc, en fait, nous, on a pensé à une émission d'un format un peu radio, voilà, type une émission d'une heure à peu près. Donc on va effectivement, l'émission précédente faisait 1h07, donc on va peut-être essayer de raccourcir un tout petit peu. Mais a priori, ça devrait rester dans ces eaux-là en termes de durée.
Et puis le but, c'est surtout de diffuser pas mal de musique pour vous faire plaisir, tout simplement. Donc forcément, on est obligé d'avoir une durée minimum pour ça. On va pas se contenter de diffuser des extraits de 10 secondes, ça servira à rien.
Voilà, c'est ça. Et puis le but aussi, c'est quand même de faire un truc assez complet. Donc si on raccourcit à 30 minutes, on va se brider et puis on va faire une sélection de 5 morceaux par thème, ce qui serait pas forcément judicieux.
Voilà, d'ailleurs, encore pour ce podcast-ci, on a eu un peu de mal à délibérer sur certains morceaux, parce que le choix est assez large.
C'était la guerre.
C'était la guerre, exactement. Et la deuxième réponse qu'on peut vous apporter, c'est que oui, il y aura, à partir du mois prochain, des invités sur notre émission. Donc on verra qui, on verra quand, on verra sur quel sujet. Mais préparez-vous à entendre d'autres voix que celle de nous trois seulement.
On fera encore plus d'audience comme ça va être super.
Voilà, et on aura encore plein d'amis qui viendront nous écouter, ce sera super gentil. Encore une fois, voilà, merci beaucoup à tous les commentaires, à tous les compliments qu'on a pu nous faire sur notre première. Et ce deuxième podcast, comme vous pouvez l'entendre en fond avec le thème de Laura de Silent Hill 2, aura pour thème le rock dans la musique de jeux vidéo. Des musiques rock'n'roll, metal ou un peu moins hard, mais avec beaucoup de guitare, avec de grosses batteries.
Des barbes.
Voilà, avec des barbes et puis des moustaches. Alors, messieurs, vous, musicalement, le rock, est-ce que c'est votre truc? Est-ce que vous avez des groupes en particulier qui vous ont marqué dans ce style-là?
Oui, ben, carrément. Moi, on va dire que c'est pas mon style de musique préféré, mais presque, quoi. Parce que, enfin, je suis un grand fan de tout ce qui est rock progressif, grand fan de Pink Floyd. Grand fan de... Moi, j'écoute en fait pas mal de chanteurs morts, donc voilà, les Inconditionnels, Hendrix, Police, Sting...
C'est sympa pour se dire qu'il est mort. Hein.
Non, mais Sting est pas mort, mais voilà, les Doors, etc. Donc, c'est plutôt les vieux groupes, moi, de mon côté.
Onink, peut-être?
Oui, moi aussi, tous les trucs classiques, mais je suis pas, pareil, je suis pas un grand fan de rock, mais ouais, j'aime bien vraiment.
Moi, pour ma part, en tout cas, c'est vraiment le style de prédilection chez moi.
Tu m'étonnes.
Voilà, bon, moi, c'est un peu plus métal à la base, mais voilà, j'ai grandi avec Queen, avec Deep Purple, avec Pink Floyd. Donc, fatalement, ce thème était un peu choisi pour moi, on va dire. Et donc, on va vous proposer, de continuer, comme on entendait le thème de Laura de Silent Hill 2 en intro, de continuer avec Silent Hill 2 avec un morceau qui s'appelle Promise, donc composé par Akira Yamaoka, si je dis pas de bêtises. C'est bon, ouf. Donc Silent Hill 2 sorti en 2001 sur PS2, puis en 2002 sur Xbox et sur PC. Je crois que c'est encore Victor qui nous en parlera le mieux.
Bon, bah alors on vient d'entendre un thème de Silent Hill 2, donc moi c'est un jeu auquel j'ai joué mais que j'ai pas fini, par manque de temps et parce que je suis un couard aussi, donc c'est le survival horror, c'est pas vraiment mon truc. Par contre la bande-son est absolument géniale. Akira Yamaoka, c'est quelqu'un qui est né en 68, c'est un compositeur japonais donc. C'est un mec qui a pas fait de musique au départ, c'est un gars qui a fait les beaux-arts et qui était autodidacte. Et en fait, il a imprimé une vraie ambiance très très particulière à Silent Hill parce que il y a pas tellement de musique finalement, c'est énormément de bruitages, de trucs extrêmement sales, extrêmement glauques.
C'est très angoissant.
C'est
super bien.
Ouais, c'est un petit peu le lot commun des survival horror de toute façon, ouais. Musicalement parlant.
Ah mais là c'est hardcore, hein. C'est-à-dire que si vous, enfin, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais si vous avez écouté Silent Hill 4, la BO, il y a des pistes où c'est juste des voix en japonais avec des bruitages horribles derrière, mais c'est, vous écoutez ça, c'est un truc, vous pissez dessus quoi, tellement c'est flippant. Et à côté de ça, donc à côté de ces bruitages très glauques, on a des thèmes très très rock, avec des super riffs, des très très beaux solos. On a des très très belles chansons également, notamment la chanson de Silent Hill 4, qui est magnifique. Et Promise, c'est vraiment un morceau qui... C'est le genre de morceau qui te fait continuer un jeu, même si tu l'aimes pas, quoi. Ça prend au trip, quoi. Et je sais que moi, dans mes BO qui passent très 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 souvent, il y a beaucoup Silent Hill 2, quoi.
Mais justement, on va laisser les auditeurs en juger par eux-mêmes si le morceau leur aurait fait continuer ce jeu. Donc, Silent Hill 2, le morceau s'appelle Promise, et on revient tout de suite après. Donc on vient d'écouter Promise, extrait de la BO de Silent Hill 2, et on va rester dans cet univers de survival horror, qui est un univers effectivement assez propice aux musiques rock, aux musiques un peu énervées avec des guitares. Et on écoute en fond actuellement la BO d'un jeu indépendant qui s'appelle Lone Survivor, que je ne connaissais pas du tout avant que Victor nous le propose.
Alors Lone Survivor, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit survival horror donc en 2D, c'est un peu en pixel art. C'est très beau, il y a des jeux de lumière très sympas, et ça a été fait par une seule personne qui s'appelle Jesper Byrne, donc qui a aussi composé les musiques lui-même. Et là c'est pareil, on rejoint un peu ce que fait Yamaoka, c'est très inspiré du travail de Yamaoka, et le thème qu'on écoute, ben, c'est le thème principal, c'est celui que vous avez quand vous arrivez sur le menu. Et voilà, c'est un petit thème rock pas piqué né hanneton, mais qui est très sympa je trouve. Donc,
Ouais, j'ai jamais entendu parler du jeu, mais c'est vrai que la musique est bien cool.
Ça a essayé, c'est pas très cher, donc, et le mec avait ça tout seul, donc c'est...
Rien que pour ça, c'est la classe.
Voilà. C'est un bon parti.
Ok, donc on va toujours dans cette dynamique des jeux de survival horror, on va passer un petit peu au pionnier du genre en quelque sorte, à savoir Alone in the Dark, franchise qui a été adaptée par la suite en film comme beaucoup de gros jeux de survival horror. Jeu français puisqu'il est développé par Infogram. Et on va parler plus particulièrement de Alone in the Dark 3, sorti en 95 sur PC, et dont les musiques ont été composées par un Français également, Frédéric Mentzen. Le précédent, Alone in the Dark 2, était composé par Jean-Luc Escalant, encore un Français. Et donc là, on va écouter un thème qui s'appelle Rock in the Dark, qu'on entend à la fin du jeu. Vous avez pas joué, vous, trop, à Alone in the Dark ?
Absolument pas.
Absolument pas. Bon ben voilà, ça c'est fait. Et bien donc on va écouter Rock in the Dark, un morceau comme vous allez pouvoir l'entendre qui moi me rappelle énormément les gros groupes du sud des États-Unis style ZZ Top, tout ça, ce qu'on appelle le Southern Rock. Donc je vous laisse écouter Rock in the Dark et puis on se retrouve après. Voilà donc pour ce thème de Alone in the Dark 3, Rock in the Dark. Et donc voilà, l'étape survival horror c'est terminé, on va passer à des choses qui bougent un petit peu plus maintenant, un peu plus peut-être en corrélation avec les musiques rock, avec une partie action-aventure, et vous entendez en fond le jeu d'excellence, on va dire action-aventure, Megaman, Megaman 2, le thème de Woodman pour être plus précis. Messieurs, Megaman en général, c'est une série qui vous parle ou pas trop ?
Plus par ses musiques, moi. Plus par ses musiques, parce que c'est un truc auquel j'ai pas joué non plus, parce que je pense que c'est le genre de jeu auquel je joue et je vais péter ma manette et je vais tuer des gens.
Il y a des chances,
ça arrivera pas. Mais du coup, j'ai jamais touché, mais par contre, la musique est vachement bien, quoi.
Ouais, c'est vrai que là, donc on entend un thème qui est en 8 bits, mais qui a été adapté à toutes les sauces, en 16 bits, en version métal, en version rock, en version techno. C'est une BO, en tout cas celle de Megaman 2, qui a été très très remarquée par les fans de musique extrême.
Même pour du 8, elle passe bien, je trouve.
Même pour du 8, elle passe bien. Il y a notamment ce thème du Wii Stage, les thèmes de stage de fin. Le Wii Stage 1-2, qui est une musique qui est totalement reconnue par les fans de métal. Qu'on sort à toutes les sauces, Songe le Rêveur, on a fait une adaptation.
Ah oui, le mec.
Ça joue à la double pédale à bloc.
Quand tu regardes les youtubeurs ou les musiciens qui reprennent les musiques de jeux vidéo, généralement t'as Zelda, après t'as Final Fantasy, et après t'as soit Megaman, soit Castlevania.
Exactement. Mais quelle transition!
Oh là 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 là!
Oh là là! Castlevania, parlons-en, mesdames et messieurs. Messieurs, en tout cas, parce qu'on est entre nous. Ou pas. Castlevania, on va parler de Castlevania Symphony of the Night, sorti sur PS1 en 1997. Une musique par Michiru Yamane, une musique qui a été vraiment très très appréciée par les fans du genre. Alors Victor, je crois que tu as des choses à nous dire sur Michiru Yamane.
C'est la première femme dont on parle en compositeur, en compositrice.
On en reparlera d'une autre plus tard, mais effectivement c'est la première.
Et elle est c'est une compositrice japonaise, bien évidemment. Elle est née en 63, et en fait, elle, c'est pas du tout une autodidacte, contrairement à certains génies comme Yamaoka. Elle a fait les grandes écoles de musique, et puis voilà, elle a vraiment imposé, elle aussi, sa patte à la musique de Castlevania. Et puis, voilà, les musiques de Symphony of the Night, c'est vraiment... c'est pareil, quoi. C'est le genre de jeu, tu peux n'y jouer que pour sa musique, quoi. Tellement ça défonce.
Presque, ouais.
C'est une OST vraiment très riche. T'as plein d'instruments différents, du clavecin, de l'orgue, et t'as des morceaux plus rock, comme celui que vous allez écouter, Clock Tower.
Alors, petite précision, le morceau, je crois, en lui-même s'appelle The Tragic Prince, et il illustre Clock Tower, donc la tour de l'horloge. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé sous le nom de The Tragic Prince à beaucoup d'endroits. Et donc voilà, donc je vous propose de l'écouter d'abord ce morceau et on en reparle peut-être un petit peu après. Ce que je peux vous dire, c'est que Castlevania, c'est effectivement une licence de jeu dont les musiques sont très reconnues pour leur aspect voilà un peu gothique, un peu rock metal, un peu sombre, voilà tout ce qui est gothique romantique, tout ça. Et ça se ressent un petit peu, je trouve, dans The Tragic Prince. Et vous allez, pour ceux qui connaissent, vous allez peut-être noter une petite ressemblance sur les premières mélodies de guitare. Avec la bande son de Illusion of Time sur Super NES, voilà. S'il y en a qui ont joué, moi j'ai trouvé ça. Donc on écoute The Tragic Prince de Castlevania Symphony of the Night. De retour sur OSB, on va se vanter un peu d'avoir un nom maintenant, alors on va essayer de le placer un petit peu partout. Donc on vient d'écouter donc cette musique de Castlevania, The Tragic Prince. Je sais pas si certains ont pu noter la référence dont je parlais à Illusion of Time, mais bah, en commentaire si vous l'avez trouvé, vous n'hésitez pas à nous la sortir. Et donc là maintenant, bah, on va continuer un petit peu dans cette phase action-aventure. Avec un jeu indépendant sorti en 2011 qui s'appelle Binding of Isaac. Je suppose que beaucoup de monde le connaissent sur Gameblog.
Ah oui, logiquement.
Logiquement. On entend ici le thème des premiers niveaux qui s'appelle Sacrificial. Un jeu qui est créé par le génial Edward Macmillan.
Edmund,
Macmillan. Donc un thème assez rock, mais il y a pas mal de thèmes comme ça qui jonglent un petit peu dans ce jeu. Entre le rock, les trucs un peu plus ambiants, qui viennent un peu nous chercher.
Là c'est du rock, mais c'est quand même c'est une musique assez flippante, je trouve. Hein.
Voilà, c'est ça.
Assez glauque.
C'est flippante, on imagine
sonorité.
Ce qui peut se passer dans la tête de ce petit personnage, donc Isaac, qui ne fait que pleurer, qui est l'incarnation donc, du mythe d'Isaac dans la Bible.
Bah, il a une histoire assez horrible quand même, ce gamin. Quoi. Parce que pour ceux qui connaissent pas le jeu, il est quand même obligé de s'enfuir de chez lui parce que sa mère essaye de le tuer à coups de couteau parce qu'elle a regardé des programmes bibliques sur la télé. Donc c'est pas super joyeux et c'est un jeu qui est hyper glauque quoi. Enfin c'est des fois c'est à la limite du scato. Enfin c'est
totalement c'est... Ouais, totalement scato, sadomaso, ouais, des trucs.
Ah ouais c'est assez dérangeant. Hein. En fait ça a un côté très mignon dans le graphisme, mais en même temps c'est hyper glauque. Donc c'est un paradoxe qui est vachement intéressant. Enfin, c'est un jeu qui est vachement intéressant pour les fans de référence. Il y en a partout quoi. Enfin...
Ah ça c'est clair. Beaucoup de références à Internet et à d'autres jeux qui ont bien marché. Et donc voilà, cette musique, donc Sacrificial, qui par le rock exprime assez bien ce côté un peu dérangé d'Isaac. Et on va passer donc à un tout autre univers qu'un univers dérangé. Enfin, moi je l'ai trouvé dérangé parce que le scénario, j'ai absolument rien compris. Mais c'est un jeu qui s'appelle Muramasa The Demon Blade, sorti sur Wii en 2009. On l'attend cette année sur PS Vita, mais on l'attend toujours.
Je rajoute un truc sur Binding of Isaac.
Oui.
Pour ceux que ça intéresse, c'est Spash qui m'a fait découvrir ça. Il y a une version piano qui est sortie il y a pas longtemps et qui est vachement bien. C'est assez surprenant pour une OST comme celle d'Isaac, mais l'OST au piano passe super bien. Donc allez écouter ça.
Je connaissais pas, mais ça m'intéresse. On la mettra peut-être en lien s'il y a des liens sur.
On recommence. On enchaîne.
On enchaîne. Donc Muramasa The Demon Blade. Alors. Est-ce que vous, c'est un jeu qui vous parle ?
Bah, je crois qu'ici, on y a tous un peu joué. D'ailleurs, on a le même avis. Donc, c'est un jeu de merde. Non, sérieusement, c'est très joli. Les musiques défoncent, mais bon, c'est un peu creux, moi, j'ai trouvé. Hein. Comme tu dis, l'histoire a pas vraiment de consistance. Pas de mise en scène, on s'y intéresse jamais.
Pour moi, c'est un petit peu la surenchère dans le côté japonais du truc. Où les gars, ça va vraiment... Bon, je vais pas cracher sur les scénarios japonais, parce qu'en ce moment je suis en train de jouer à Okami, que j'adore.
Là ça passe beaucoup mieux le scénario.
Ça passe beaucoup mieux, mais Muramasa c'est vraiment, tu débarques à un endroit et on te dit voilà le pouvoir du dragon dans ton sabre, le son de tes montagnes, attention tu vas réveiller les morts. Mais qui sont ces personnes? Je ne sais pas. T'as des mecs qui apparaissent de nulle part, tu sais pas qui c'est, enfin c'est très très étrange. Mais bon c'est vrai que c'est un jeu qui on se laisse emporter par le gameplay, par les musiques, par les très beaux décors.
Disons que pour moi, il y a une très belle forme, mais il n'y a pas de fond, quoi.
C'est
magnifique, pour de la Wii, c'est superbe. Voilà, comme on l'a dit, les musiques défoncent, c'est un magnifique voyage dans la culture japonaise. Par contre, c'est hyper répétitif, parce que c'est du beat'em all.
Le gameplay, c'est super bourrin,
les décors commencent à devenir tout le temps les mêmes. Enfin, l'histoire, on n'y comprend rien, les mecs, ils ont des noms. Même si moi, j'ai pas particulièrement de problème avec les noms japonais. Enfin, au bout d'un moment, faut pas déconner, quoi. Enfin, quand les noms, ils sont 15 syllabes.
Bon, alors, je vous propose de passer outre les noms et d'écouter, comme on disait que ça défonce, la musique du tout premier boss de Muramasa, The Demon Blade. On en reparlera peut-être après. En tout cas, voilà, on écoute la musique du premier boss. Voilà, donc ce thème de boss de Muramasa, The Demon Blade. Je sais que tous les deux, Onink et Victor, vous appréciez le compositeur. D'ailleurs, j'ai déjà oublié le nom.
Hitoshi Sakimoto.
Sakimoto, voilà.
Alors, c'est une bande-son.
On en a parlé, je crois, la semaine dernière déjà.
Ouais, avec FF12. Donc, la bande-son de Muramasa a été composée par ce petit gars. Donc, c'est un de mes compositeurs préférés. Il a bossé surtout sur les jeux de la Team Ivalis et de Yasumi Matsuno, ce génie. Donc ouais. Background Story, FF Tactics, FF12 qui ont tous des superbes OST, Tactics Ogre aussi.
Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait pour VanillaWare, donc justement pour Amasa et puis la bande son de Denis Sphere qui est superbe aussi.
Là du coup il tranche complètement avec son style habituel, je trouve. C'est une bande son très variée, des musiques d'ambiance typiques du Japon traditionnel, avec des musiques rock aussi pour les boss et les combats qui envoient du lourd.
Il est très très fort.
Ouais.
Voilà, justement, donc comme on disait, voilà, on va partir de cette magnifique transition de musique de boss, aller un petit peu vers les musiques de combat et de boss de manière, enfin, de boss et de combat de manière générale.
Des RPG surtout.
Ouais, et surtout des RPG effectivement, puisqu'en fond on écoute la musique de Star Ocean Blue Sphere, un morceau qui s'appelle Hand to Hand, qui a le thème des combats, sorti sur Game Boy Color en 2001. Un morceau d'un artiste dont on va beaucoup parler par la suite de ce podcast, qui s'appelle Motoi Sakuraba.
Ah là 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 là.
Et on va pas en parler qu'une seule fois de lui avant la fin de l'émission.
Ben oui, ou alors ben moi je repars. Si on en reparle, je ferai mon petit topo plus tard, mais c'est pareil, c'est un de mes compositeurs préférés quoi.
On en reparlera.
Facile dans le top 3 des miens. On en reparlera.
Ben là on entend par ailleurs en fond une version live qu'il a fait avec je sais pas trop quel musicien exactement, c'est une version qui date je crois de 2006 si je dis pas de bêtises.
En fait, il a fait un album Star Ocean et Valkyria Profile en version live. Et donc, si vous cherchez sur YouTube, vous tapez End to End Live Sakuraba, vous allez voir la vidéo. Et ce mec est sur ses claviers, je crois qu'il a 5 claviers, et il joue à une vitesse, c'est juste un truc de dingue.
Effectivement, j'ai la vidéo sous les yeux, donc je peux vous confirmer. On mettra le lien là encore voilà, sur l'article correspondant. À cette émission de podcast. Et donc on va embrayer toujours vers une musique de boss de RPG, un RPG cette fois-ci qui s'appelle Xenosaga 3, sorti sur PS2 en 2006, qui est un peu l'ancêtre de notre bien-aimé Xenoblade Chronicles, n'est-ce pas ?
Donc on va... Mais je sais pas s'il a un lien avec Xenoblade, je sais que c'est la même équipe, mais vous savez s'il y a un lien
entre les scénarios ? Non, en particulier, non.
Non, je pense pas, non.
Xenogears, il y a un lien, mais Xenoblade, je sais pas.
Bon, vu que c'est la même équipe, je pense que tu retrouves un peu les mêmes... J'ai pas joué, hein, mais je pense que tu retrouves un peu les mêmes... La même vision du game design, je pense.
En tout cas, là, on va écouter une musique qui s'appelle God Sib, et qui, justement, moi, me fait beaucoup penser à une musique de Xenoblade Chronicles, qui est le thème de Zanza. Enfin, pour ceux qui ont joué à Xenoblade Chronicles...
Ah oui,
c'est le même.
Moi, j'ai trouvé voilà, qu'il y avait vraiment une grosse ressemblance dans ces thèmes. Écoutez, on écoute ça, et puis on en parle après.
Ouais.
Okay.
Allez, c'est parti pour Xenosaga 3, God Sib.
Oh,
Voilà, donc Xenosaga 3, Alsos Prash Zarathustra de son nom entier. Une musique composée par Yuki Kajiura, donc voilà, ça fait encore une femme dans la playlist. Ben voilà, donc on a écouté le morceau de Boss God Seed, et là on écoute.
Elle est excellente.
Vous aviez quelque chose à dire, je crois, à rajouter sur Xenosaga 3?
Bah, personnellement, déjà, cette musique, c'est tout simplement une de mes musiques de jeux vidéo préférées. Hein. Je trouve qu'elle défonce vraiment. Donc, composée par Yuki Kajiura, qui est surtout connue pour ses musiques d'anime. Elle a malheureusement pas fait grand-chose dans le jeu vidéo, mis à part donc Xenosaga 2 et 3. Mais ça reste une très grande compositrice. Donc, dans ce morceau, God Seed, on a même le droit au chant un peu lyrique, typique de ses musiques. Dans un langage, le Kajuran, qu'elle a inventé pour ses musiques et qu'on retrouve dans un bon paquet de ses compositions, qui donne vraiment un style très particulier. J'aime beaucoup.
Donc là, on écoute en fond une musique de Legend of Mana, sortie sur PS1, oui, en 1999. Un thème de boss également qui s'appelle Pain the Universe.
Encore une femme.
Encore une femme, puisque Yoko Shimomura, voilà, la fameuse.
Ah ouais, non mais là, c'est pareil, c'est un colosse de la musique de jeux vidéo, de Kushimomura.
C'est Street Fighter 2, c'est Kingdom Hearts.
C'est Parasite Eve.
Super Mario RPG.
Ouais, les Legend of Mana, les Front Mission. Versus Stress, il arrive un jour. c'est Xenoblade aussi.
Ouais, pas mal de morceaux de Xenoblade, effectivement.
Voilà, c'est Heroes of Mana aussi, qui est très très bien.
Et donc voilà, donc ce Legend of Mana qui est officiellement, ou officieusement, je ne sais même pas d'ailleurs, le Seiken Densetsu 4. Donc voilà, il y a les Mystic Quest, Secret of Mana, Seiken Densetsu 3, qui a pas vraiment de nom français, et donc Legend of Mana. Moi, ce qui m'intéresse,
c'est pas celui qui est sorti sur PS2 là, qui était pas terrible, je crois. Dawn of Mana, un truc comme ça, je crois que c'est.
C'est
peut-être une connerie, mais.
Ouais, en tout cas, j'ai cru comprendre que le 4 c'était celui-là, ce Legend of Mana. Donc, moi, ce qui m'intéresse assez sur ce thème, c'est que c'est marrant parce que je trouve qu'on retrouve beaucoup de codes des musiques rock dans le RPG, des musiques de combat avec un clavier qui est ultra, ultra, ultra présent. C'est vraiment limite de la flûte en fait, le truc. Et la mélodie est quasiment qu'au clavier, on entend vraiment beaucoup les influences finalement progressives, musique de rock dans le RPG.
Mmh. Bah, les thèmes de boss de Legend of Mana sont tous super réussis, celui-là en particulier.
Il n'y a pas que les thèmes de boss, hein. Toute la BO est extraordinaire. Hein. Enfin, moi j'ai découvert, c'est une BO que j'ai découvert grâce à son album Dramatica, qui est un best-of en fait de ses musiques où elle l'a fait en version symphonique et c'est juste tombé par terre. Quoi. Mmh. Allez écouter ça, c'est super bon.
Là voilà. Et on va maintenant dire un grand merci commun à Japman, puisque c'est grâce à lui que nous avons eu l'idée de diffuser le prochain morceau, The Strongest Foe, un morceau d'un thème de boss de Is. Is the Oath of Infelgana. Vous avez joué à Is, messieurs, ou pas?
Non.
Non.
Et ben c'est réglé parce que moi non plus. Donc un jeu qui est sorti au Japon en 2005 sur PC, en 2010 sur PSP, et en 2011 mondialement sur le PSN, et en 2012 sur Steam. Donc voilà, c'est un jeu qui a plusieurs vies, c'est super génial. Musique par Yuzo Koshiro, on en a déjà parlé la semaine dernière avec Actraiser, ouais. De Yuzo Koshiro.
Ah bah oui, non mais lui aussi c'est un colosse de la musique, quoi. Enfin, comme on l'avait dit la dernière fois, donc c'est lui qui a fait les Actraiser, il a fait les Street of Rage, il a fait le jeu dont on entend parler à tous les podcasts qui s'appelle Shenmue.
Ouais.
Et puis... Enfin voilà, c'est pareil. Là, ce qui est intéressant avec ce mec-là, c'est que c'est un gars qui a une polyvalence monstrueuse. C'est-à-dire que c'est un mec qui écoute beaucoup de hip-hop, qui écoute beaucoup de musique électronique. Du coup, il a fait de l'électro dans Street of Rage. Il a fait du rock dans Is. Et il a fait de la musique traditionnelle chinoise dans Shenmue. Donc, ouais. C'est quand même un mec qui a une polyvalence assez monstrueuse.
Justement, preuve de ça, donc voilà, The Strongest Foe, extrait de la BO de Is the Oath in Felgana. Voilà donc pour cette musique de Is. On remercie encore Jackman pour la suggestion.
Ouais, mon article, il y a plein de musique super sympa et plein de thèmes rock, vraiment cool.
Qu'il est bon ce Jackman, qu'il est bon. Allez, on va passer maintenant hors des boss à des combats un peu plus généraux, et pas forcément dans les RPG ce coup-ci, avec, vous l'entendez en fond, un morceau qui a été un petit peu speedé pour l'occasion, qui est à la base sur Kirby, je sais même plus lequel d'ailleurs, de Kirby Superstar, voilà. Un morceau qu'on retrouve là sur Super Smash Bros. Brawl, qui s'appelle Gourmet Race, un arrangement métal qui a été fait par, devinez qui, par Motoi Sakuraba, encore lui,
what,
inévitable. L'inévitable Motoi Sakuraba, on avait dit qu'on en reparlerait, et ben le voilà. Moi je trouve très réussi cet arrangement métal.
Faut dire quand même que Super Smash Bros, c'est le seul jeu qui permet de défoncer Link avec un Kirby. Et ça, c'est la
vrai.
Classe.
C'est vrai.
Ça,
c'est le jour où, Kirby arrivera à battre Ganondorf, ben voilà, c'est le jour où est arrivé.
Taper du Link avec une boule rose, c'est génial quoi.
Il y en a un qui aime pas trop Link là, j'ai l'impression, non?
Ah non, mais c'est... Non, mais j'adore Zelda en plus, mais... Enfin, Motoi Sakuraba, là, c'est... Je me répète, ça m'énerve, parce que je dis tout le temps que c'est mes compositeurs préférés, mais c'est vrai, en plus. Sakuraba, donc, c'est un mec qui est né en 65 au Japon, et c'est un grand fan de rock progressif, et aussi de musique classique, étonnamment. C'est un mec qui a énormément été influencé par des groupes comme Pink Floyd, on y revient, par Chick Corea, par beaucoup de groupes anglais... du rock progressif en fait, et c'est un mec qui, avant de se lancer dans le jeu vidéo, il a eu une grosse carrière solo avec un groupe qui s'appelait Déjà Vu, et ça a été un des chefs de file du rock progressif au Japon.
Alors, il y a un truc juste sur lequel je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis étonnamment fan de musique classique, là je suis pas d'accord, parce que c'est pas étonnant, on retrouve énormément de gens qui font du prog et qui adorent la musique classique. Enfin, moi c'est vrai qu'en tant que métalleux, je pense à des artistes de métal. Un groupe comme Nécrophagiste, par exemple, j'imagine que vous n'avez pas entendu parler.
Ah bah moi j'écoute pas de métal, donc non.
Voilà, donc c'est un groupe où voilà, c'est des brutes totales, et les mecs, enfin le guitariste fait des solos, enfin des solis d'ailleurs, on dit, très inspirés classiques, néoclassiques, qui sont d'une beauté rarement entendue, honnêtement, alors qu'à côté c'est que du brutal. Enfin voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le prog et le classique sont assez intimement liés généralement. Voilà, on s'en rend compte dans les compositions.
Bah faut dire que Sakuraba, il a pas que fait des musiques rock de gros bourrin, il a aussi fait quelques musiques beaucoup plus douces qui lornent sur le classique, genre dans Eternal Sonata notamment, ou même dans Baten Kaitos, qui sont assez jolis.
Bon, non, mais... alors là, pour parler de Baten Kaitos, tu voulais dire quelque chose, pardon, Victor, peut-être?
Bah ouais, non mais enfin, c'est un mec, c'est pareil, il est extrêmement polyvalent, enfin... Quand tu vois qu'il a aussi fait du Mario Power Tennis, et quand tu regardes, tu dis, bon, Mario Power Tennis, tu vois le générique, tu vois Motoi Sakuraba, tu te dis, ok, c'est le mec qui a fait les Tales of, tu te dis, bon, le mec est quand même assez bon, il arrive à passer de genre, à changer de genre de manière assez remarquable.
Bon, en tout cas, là, on va rester dans le rock progressif, et on va parler de, justement, on va Onink en parler, de Baten Kaitos, un jeu, effectivement, sur lequel on retrouve également beaucoup, beaucoup de styles différents, justement, on parlait du classique, il y en a énormément. Et là, donc un thème de combat très très rock, voilà, rock progressif justement, qui envoie du très très lourd, comme tous les thèmes quasiment de combat de Baten Kaitos. On va passer à un thème qui s'appelle Vitriolic Stroke. Bah écoutez, que je vous propose d'écouter, puis on en reparle après, tout simplement. We'll be right back. Voilà, c'était donc Baton Kaitos Vitriolic Stroke sur OSB, Original Sound Bloggers.
Yeah.
Yeah. Donc Baton Kaitos, on en parlait, un jeu sorti sur GameCube en 2003 au Japon, puis en 2005 chez nous. Un jeu qui est devenu quand même assez difficile, pas à trouver forcément, mais qui est resté assez cher. Hein, et c'est un jeu qui est à faire, tout simplement. Il y a un système de combat qui est un peu déstabilisant, on va dire, un système avec des cartes qui est pas à la portée de tout le monde, qui en décourage beaucoup. Mais une fois qu'on est dedans, ça donne des combats super longs. Moi, j'ai déjà perdu des combats d'une heure et demie, ça m'a fait jeter ma manette par terre, mais au moins, c'était assez intense. Jeu que j'ai fini en 60 heures et vraiment pas à fond. Donc, très très bon RPG, très complet.
Il est super beau aussi, je crois.
Super beau, super. Les musiques sont magnifiques. Donc, par Motoi Sakuraba, on le disait. L'idée
Motoi
de base,
Sakuraba, il n'y a pas un consensus. Moi, je suis pas très fan, je vous l'avoue. Je trouve qu'il se répète quand même beaucoup, surtout dans les Tales of.
Ça, je suis d'accord.
Vraiment moyenne, je trouve.
Les Tales of. Sur mon premier Poulpi Podcast, justement, j'avais fait un rapprochement entre musique Baton Kaitos et celle d'un Tales of Symphonia. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est un jeu qui est splendide, qui utilise des codes qu'on n'a pas trop vu dans le jeu vidéo, c'est-à-dire toute la mythologie arabe, style vestimentaire, style architectural arabe, qu'on voit très très peu en fin de compte, et qui rajoute une plus-value assez intéressante à ce jeu-là. Et on va continuer ces thèmes de combat toujours très rock avec Persona. On entend en fond actuellement le terme de Persona 4, appelé I'll Face Myself, le thème des combats. Jeu sorti sur PS2 en 2008. Je crois que vous, Persona, vous n'y avez pas trop joué non plus. Moi non, personnellement.
Non, mais les OST, elles passent très souvent. Hein. Les OST des Persona, vraiment, c'est des purs chefs-d'œuvre. C'est très rock.
Moi, j'ai découvert ça il y a 2 semaines, en fait.
Donc, peut-être que Onink, tu seras le mieux placé pour nous parler de ce morceau I'll Face Myself et du morceau qui va suivre du Persona 3. Parle-nous un petit peu de ça.
Ah oui, le morceau de Persona 3, c'est la musique du boss final. Donc, Battle for... on l'écoute d'abord.
Ouais, allez, on l'écoute d'abord. On va se faire ce petit plaisir-là. Et après, tu nous diras tout sur ce thème de boss. We'll be right back. Voilà donc pour ce thème de boss de Persona 3. Et Onink, bah c'est à toi de nous...
Ah, oui, bah cette piste, c'est vraiment une des meilleures musiques de boss final de tous les temps, je trouve. Il y a la musique qui va bien, c'est rythmé, la mélodie, mélodie super, super envoûtante. Et quand les chœurs apparaissent à la fin, là, c'est vraiment du bonheur. Donc c'est composé par Shoji Meguro, le compositeur attitré des musiques de Persona, qui a aussi bossé par exemple sur Catherine, le dernier jeu d'Atlus, qui est tard de faire d'ailleurs.
Ah, il est extraordinaire ce jeu.
Tu l'as fait ?
Ouais, j'ai un pote qui l'a prêté et je l'ai fini, mais j'ai pris une sacrée baffe quand même.
Bah, pour rester sur Persona, moi personnellement, j'ai pas pu m'essayer à cette série, mais je prie vraiment pour qu'il sorte un cinquième épisode sur les consoles actuelles. Et tant qu'à faire, apporter aussi le remake. Il y avait un remake qui est sorti sur PS Vita, je crois. J'aimerais bien qu'il porte sur PS3, ce serait cool.
C'est pas
si les développeurs m'entendent.
Et que ça sorte en France, tout simplement aussi, peut-être.
Ouais.
Voilà, donc bah voilà pour Persona. On écoute en fond actuellement une musique de BlazBlue Calamity Trigger, sortie en 2009 sur PS3 et sur Xbox 360, en 2010 en France. Un thème qui s'appelle Lust Scene, thème du personnage Jean. BlazBlue, est-ce que ça vous parle à vous ?
Bah en fait, c'est moi qui t'ai passé ça, mais moi je joue absolument pas à des jeux de baston. Et c'est juste quand je regardais le thème, je réfléchis, thème rock, je me souvenais que j'avais déjà vu des vidéos de BlazBlue et que ça me paraissait avoir une musique assez péchu quoi. Enfin,
là effectivement c'est un bloc de guitare électrique,
la guitare. Ah ouais ouais. Enfin moi je te dis, j'ai jamais joué, mais j'imagine que quand tu dois faire du versus fighting sur des musiques comme ça, ça doit motiver.
C'est sûr. Voilà, une musique composée par Daisuke Ishiwatari.
Après c'est du gros rock nippon, hein, donc si on a du mal avec ça, c'est même pas la peine.
Mais, c'est sûr. On parle presque de ça depuis tout à l'heure, donc c'est un peu embêtant que les mecs se rendent compte au bout d'une heure que ça leur plaît pas.
Mais ouais, moi j'aime bien.
Il y a aussi les musiques de Guilty Gear dans le même genre, c'est les mêmes développeurs qui sont aussi très rock, très, très bonne musique.
Et bah écoutez, ainsi s'achève ce deuxième épisode d'Original Sound Bloggers, donc consacré au rock. On vous remercie encore une fois tous et toutes de l'avoir écouté jusqu'au bout. On remercie Onink, on remercie Victor. On vous promet un troisième épisode encore plein de magnifiques musiques avec cette fois-ci un invité. Nous-mêmes, on ne sait pas.
Invité surprise.
On va envoyer des messages. Et donc, ben écoutez, on va se quitter avec une musique qui nous tenait à cœur de passer, je crois. Hein.
Vraiment, magnifique musique.
Je précise que ce n'est pas moi qui ai voulu la passer. On vient de pas m'insulter après.
Hein. C'est vrai que ce coup-ci, c'était pas toi. C'était Onink qui nous a.
Et j'assume.
Et Midiné qui assume cette magnifique musique. Vous vous en doutez d'un jeu qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'appelle Final Fantasy XIII-2. Je sais pas si vous connaissez.
Voilà. Bon, généralement, si vous êtes un joueur qui a des mains carrées, vous connaissez, je pense.
Voilà. Vous verrez cette musique, enfin vous entendrez. Cette musique, c'est un condensé de poésie, c'est une ode à la beauté, vous allez apprécier.
Ça surpasse de très loin les grandes compositions de Nobuo Uematsu au niveau des batailles. Enfin,
exactement. Donc voilà, un magnifique thème de screamo, hardcore, postcore, emo, Final Fantasy XIII-2. On écoute. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Ouais, bon, évidemment, c'était une blague, hein, on va pas vous passer ça jusqu'au bout. Ce serait quand même trollé, vraiment.
Bah, déjà, ça serait trollé et surtout, ça sera assez horrible par rapport à la qualité des musiques qu'on vous a passées avant.
Exactement.
Ce serait pas sympa pour vos oreilles aussi.
Ah, c'est sûr.
Se quitter là-dessus, ça laisserait un arrière-goût, enfin, un arrière-goût un peu sale. Voilà, les gens auraient pas envie d'écouter le troisième épisode. Ah, non.
Non, mais enfin, voilà quoi. C'est juste pour signaler que c'est vraiment une hérésie ce qu'ils ont fait sur des morceaux comme ça, quoi.
Je suis d'accord.
Arrêtez, quoi.
Donc, la vraie fin de ce podcast, c'est une musique, un gros thème rock, un peu punk, de Halo 3. Voilà, le thème multijoueur de Halo 3, un thème composé par Priestone, qui s'appelle Love Your Friends. Et vous pourrez constater dans la chanson qu'il ne dit jamais Love Your Friends. À la fin, il dit Kill Your Friends, le gars. Et c'est normal parce qu'à la base la chanson devait s'appeler Kill Your Friends, sauf que pour un multijoueur, ben Microsoft a un peu fait la gueule et leur a dit changer vite le nom pour que ça puisse sortir convenablement, et donc ça s'appelle Love Your Friends du coup. On va se quitter sur ce thème de Halo 3 et je vous dis au mois prochain, dans 4 semaines.
Merci de nous avoir écoutés.
Ah ouais.
Merci.
À bientôt.
Et à très bientôt, ciao ciao.
Salut.
I can't.